Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, des grottes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites, et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouve à Ophra dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier !» Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël ? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Gédéon lui dit « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. »
Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et lui offrit. L'ange de Dieu lui dit « Prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel, et il s'écria « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel, et il l'appela « L'Éternel assure la paix ». Cet hôtel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupe familial d'Abiézer. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon « Prends le jeune taureau de ton père et le second. celui de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abats le poteau sacré qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra de nuit. Le lendemain matin, les gens du village découvrirent que l'autel du Baal avait été démoli, que le poteau sacré était abattu et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être construit. Ils se demandèrent alors les uns aux autres « Qui a fait cela ?» Alors qu'ils cherchaient à se renseigner, on leur dit que c'était Gédéon, le fils de Joas, qui avait fait cela. Alors ils dirent à Joas « Fais sortir ton fils et il mourra, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait à côté. » Mais Joas répondit à tous ceux qui se tenaient autour de lui « Est-ce à vous de défendre la cause de Baal ? Est-ce à vous de lui venir en aide ? Celui qui prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » À partir de ce jour, on surnomma Gédéon Yerubaal, qui veut dire « que Baal se défende », parce qu'on avait dit que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient rassemblèrent leurs troupes, traversèrent le Jourdain et installèrent leur camp dans la vallée de Jizréel. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon, qui se mit à sonner du cor. Alors les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblèrent pour le suivre. Gédéon envoya des messagers dans tout le territoire de Manassé. Là aussi les hommes se rassemblèrent pour marcher avec lui. Il envoya de même des messagers dans les tribus d'Aser, de Zabulon et de Nephtali, et tous vinrent le rejoindre. Gédéon dit à Dieu, « Si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. J'étendrai une toison de laine sur le sol de l'aire où l'on bat le blé. Si la rosée se dépose seulement sur la toison et si tout le sol autour reste sec, je saurai que c'est par mes soins que tu veux délivrer Israël, comme tu l'as déclaré. » C'est exactement ce qui arriva. Le lendemain, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir assez de rosée pour remplir d'eau tout un bol. Alors il dit à Dieu, « Ne te fâche pas contre moi si je t'adresse encore une fois une demande. Permets-moi seulement une dernière épreuve avec la toison. Qu'elle seule reste sèche et que la rosée mouille le sol tout autour. » Et Dieu fit cette nuit-là ce que Gédéon lui avait demandé. Seule la toison resta sèche alors que tout le sol reçut de la rosée.
Alors j'ai choisi ce passage parce que j'étais obligé de l'étudier pour une retraite en mois d'août, mais aussi parce que on a là beaucoup d'indications sur ce que Dieu veut faire avec nous. D'abord, l'histoire se situe à l'époque des juges, on appelle ainsi ceux qui gouverner de façon épisodique le peuple d'Israël avant qu'il y ait la monarchie instituée. C'est très intéressant de savoir que dans l'histoire d'Israël, le gouvernement n'était pas de façon héréditaire ou démocratique. Il était charismatique. C'est-à-dire, on attendait, quand il y avait un problème grave, que l'Esprit de Dieu choisisse un homme ou une femme, ça pouvait être une femme, et on suivait cet homme et cette femme qui avait alors l'Esprit de Dieu pour faire sortir le peuple d'un problème grave. Et ici, le problème était vraiment grave car il y avait du pillage et ils étaient réduits à la misère extrême, à la famine, à cause du pillage de ces peuple nomade qui étaient les Madianites et autres comparses. Et à la fin de la victoire que Gédéon va obtenir avec quelques hommes seulement, 300 hommes contre 150 000 pillards armés avec leurs chameaux, leurs armes, lui n'avait pas utilisé d'armes, et bien après cette victoire éclatante, et le peuple demande, on voit ça au chapitre 8, à Gédéon, deviens notre roi. Deviens notre roi. Et au chapitre 8, verset 23, il y a cette réponse de Gédéon, ce n'est pas moi qui serai votre roi, ni mon fils. Que le Seigneur soit votre roi. Nous avons chanté au début du culte ce cantique où nous célébrons Jésus comme roi, venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Célébrer, chanter notre roi. Jésus a plusieurs fois aussi été sollicité par les gens qui l'avaient vu accomplir un miracle. Et pour, ils voulaient le faire roi, notamment après la multiplication des pains. Et Jésus s'est enfui, il a pas voulu être couronné roi par les gens, par le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'il veut que cette royauté soit directement exercée sur nous par son Père. Dieu veut être notre roi, c'est ce que Gédéon rappelle au peuple d'Israël. Après, ils ont eu un roi, c'était une concession que Dieu a faite. On voit que Dieu est toujours plein de patience vis-à-vis de ce que l'homme exige, et qui n'est pas forcément bon, mais Dieu va parfois dans le sens de ce que l'homme exige. Même si ce n'est pas la volonté première de Dieu. Et Dieu leur a donné un roi, ça n'a pas marché avec le premier, il en a choisi un autre, c'était le peuple, c'était David. Et chaque fois, comme pour David, nous voyons, comme pour Gédéon, Dieu choisit quelqu'un que personne n'avait pensé. Gédéon dit, mais je suis le plus jeune, je suis dans ma famille, elle n'est pas une grande famille. Voilà, Dieu a choisi toujours les petits. Et il fait toujours comme ça. Il ne choisit pas ce que nous aurions choisi. Même la Bible dit cela pour Jésus. Là, il est comparé à la pierre rejetée. Après le premier temple, on en avait construit un deuxième, et je suppose qu'en construisant un deuxième, au bout du quand il était fini, on a trouvé une pierre du premier temple qu'on n'avait pas utilisée. Et alors là, il y a un psaume qui dit « Cette pierre rejetée par les hommes, qui n'a pas été utilisée pour le temple, eh bien Dieu va en faire la pierre principale de son temple. » Voilà la prophétie qu'il y a dans le psaume, je crois que c'est le psaume 118. Et Jésus utilisera cette prophétie pour parler de lui-même, la pierre. Les apôtres rappelleront que nous avons rejeté celui qui est en fait choisi par Dieu. Pour être notre roi, qui pour être vraiment celui qui nous sauve de tous nos problèmes et de la main de l'ennemi. Donc cette première chose, que c'est tout à l'honneur de Gédéon, il a refusé qu'on le fasse roi, parce qu'il a cette intuition que Dieu veut être directement le roi de son peuple et de chaque personne dans ce peuple. Et Jésus exerce aujourd'hui sa royauté, la royauté de son Père, elle est exercée sur nous. Comment ? Directement, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le règne de Dieu exercé en nous. Et c'est pour ça qu'il est très important de croire au Saint-Esprit. Nous le disons dans le credo, je crois au Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit. Alors c'est vrai qu'on ne dit pas grand-chose sur le Saint-Esprit. Mais néanmoins, il est dans le credo, je crois au Saint-Esprit. Je ne crois pas au Saint-Esprit en lui-même, mais le Saint-Esprit qui est envoyé par le Fils à la droite du Père. Et pour exercer la royauté de Dieu sur nous, nous nous soumettons au règne de Dieu en nous soumettant au Saint-Esprit. Alors, une deuxième chose, c'est les fils d'Israël sont vraiment dans une période où ils risquent de mourir de faim. où ils sont sans défense devant ces multitudes de pillards qui viennent, qui prennent le fruit de leur travail au moment où c'est la moisson. Et le prophète que Dieu envoie à ce moment-là, ils ont crié vers le Seigneur, il leur rappelle, mais vous voyez, vous avez rejeté le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte. Le Seigneur avait fait ce grand miracle de la délivrance de l'Égypte, maintenant vous êtes esclaves, vous êtes soumis à des pillards. Vous n'avez pas écouté Dieu qui vous a dit « Ne mettez pas d'autres dieux avec moi ». Ils n'avaient pas oublié le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, puisque Gédéon rappelle à l'ange « Ah mais où sont les miracles? Si Dieu est avec nous, alors où sont les miracles dont nos pères nous ont parlé? Quand on est sorti d'Égypte, il y a eu la mort des premiers-nés chez les Égyptiens, on a mangé un agneau qui nous a permis de traverser la mer Rouge, de traverser à la mer à pied ». Et tandis que les ennemis étaient noyés dans la mer et l'armée égyptienne détruite dans cette mer que nous on a traversée à pied, là où il y a la mort pour les uns, pour nous ça a été la vie, la délivrance. Là où il y a la mort, là où il y a la mort du péché, pour nous il y a la vie dans la croix. Jésus a parlé de sa mort comme d'une nouvelle Pâque. Dieu reprend toujours ce modèle de la délivrance de l'Égypte quand il vient sauver son peuple. Encore aujourd'hui, nous avons aussi la Sainte Cène qui reprend, qui rappelle que Dieu sauve aujourd'hui par ce miracle de la sortie d'Égypte, par ce miracle de la mort, de la résurrection de Jésus qui est notre Pâque, dit l'apôtre Paul. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il y avait un agneau, effectivement, quand ils sont sortis d'Égypte, qu'ils avaient dans le ventre. Nous allons manger aussi le corps du Christ, boire son sang, parce que c'est l'agneau qui nous permet de sortir de nous-mêmes, de nos enchaînements, de nos chaînes, pour aller vers la liberté que Dieu veut pour nous par son esprit qui va faire régner son règne par nous, en nous. Alors, Dieu leur envoie donc un prophète, et après il y a cette visite de l'ange du Seigneur à Gédéon. Et vous avez remarqué dans l'écoute que parfois cet ange du Seigneur, on nous dit que c'est le Seigneur lui-même. C'est flou. Au verset 21, l'ange du Seigneur. Verset 22, l'ange du Seigneur. Et puis Gédéon dit, ah, j'ai vu l'ange du Seigneur. Verset 23, le Seigneur lui dit. Donc c'est flou. Et les juifs messianiques, ils disent, mais ça, c'est vraiment une venue de Jésus, du Fils de Dieu qui est appelé ici l'envoyé de Dieu, parce que le mot ange en hébreu, ça veut simplement dire un envoyé. Donc ici, on a une venue de Jésus, une venue de l'envoyé de Dieu. Combien souvent dans l'évangile de Jean, Jésus parle de lui-même comme étant l'envoyé de Dieu, celui qui croit au Père et à celui qui l'a envoyé, il a la vie éternelle, dit Jésus. Dieu s'implique dans l'histoire en venant personnellement à travers Jésus, dans l'histoire d'Israël. Bien des fois, il est venu dans l'histoire d'Israël. Et c'est Jésus que Gédéon a rencontré, qui est simplement venu s'asseoir au moment, dans l'air où il était en train de travailler pour rentrer le blé. Jésus est venu s'asseoir, l'ange du Seigneur est venu s'asseoir. Et lui a parlé. Vraiment, il lui a parlé. Alors, la première chose que l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Mais Gédéon n'était pas un vaillant guerrier. On voit dans la suite de l'histoire combien il avait peur. Hein. Il a éprouvé Dieu. Or, c'est une interdiction qui est marquée dans la Bible. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur. C'est une des tentations à laquelle Jésus a su résister, de mettre à l'épreuve le Seigneur. Et Gédéon, lui, il met à l'épreuve le Seigneur. 4 fois. Bon, la toison, c'est très connu, cette histoire. Hein. Mais la première mise à l'épreuve, quand il met le Seigneur à l'épreuve, il dit à l'ange, « Bon, tu vas rester ici. » Pendant que je vais te préparer un repas. Ok, lui dit, non, okay, je veux rester là. Pourquoi il fait ça, Gédéon? Parce que je pense qu'il il doutait de ce que ses yeux voyaient, quoi. Mais, ou de ce que son oreille entendait. Il doutait de cette expérience, de parler comme ça avec un ange du Seigneur. Et donc, il va lui préparer un repas pour lui faire manger, pour voir si c'est bien réel, ça. Moi, je l'interprète comme ça. Il met à l'épreuve. Et Dieu accepte cette mise à l'épreuve. Ok, vas-y. Et il apporte un bon repas. Et je ne sais pas combien de temps l'ange a attendu. Il a cuisiné là 30 kilos de farine, à peu près. Des pains sans levain. Donc, il n'a pas laissé monter le pain. Il a fait comme font les Turcs aujourd'hui ici à Thiers, hein, sur des plaques chaudes comme ça, des galettes de pain. Et après, il a préparé de la viande. Donc, il fallait tuer l'animal, préparer, le mijoter, le jus dans un pot. Il a tout apporté. L'ange lui a dit, tu verses le jus là sur le rocher, puis tu poses là-bas sur le rocher. Et avec le bâton, il a touché cette nourriture. Et le feu est sorti du rocher, a tout consumé. Et à ce moment-là, l'ange a disparu. Quelle expérience. Là, on nous dit, Gédéon, il a vu. Ah, Seigneur Dieu, j'ai donc vu l'ange du Seigneur face à face. Il est effrayé parce que cette fois-ci, il ne peut pas douter de sa vision. Il ne peut pas douter de son expérience parce que la nourriture a été consumée. Et le feu est sorti du rocher. C'est exactement ce qui s'est passé quand le tabernacle a été inauguré. On voit ça dans Lévitique. Grâce aux notes de la Torah, on découvre plein de choses. Dans Lévitique 9, vous voyez que le premier holocauste qui a été apporté dans le tabernacle, c'est le feu de Dieu qui l'a consumé. Ils n'ont pas mis une allumette. Ça a été consumé par le feu venant de Dieu. Dieu a mangé cette viande. Dieu a pris ce repas sous la forme d'un feu. Eh bien, ça nous rappelle aussi je ne peux pas m'empêcher de penser au repas que Jésus a pris avec les disciples d'Emmaüs en partageant le pain, et au moment où la nourriture était consommée et commençait à être consumée, digérée, il a disparu. C'était vraiment une expérience du Seigneur que Gédéon a faite, comme les disciples d'Emmaüs ont fait une expérience, et aussi les disciples au bord du lac de Galilée, hein. Jésus a mangé du poisson, il a mangé après sa résurrection. Comme ça, il ne pouvait pas douter que c'était vraiment une rencontre avec Jésus vivant. Parce que c'était pas. Comme ça, il ne pouvait pas se dire plus tard, oh, peut-être j'avais eu là un fantôme ou une vision, j'avais dû manger un champignon un peu hallucinogène, et que peut-être là j'ai eu. À ce moment-là, je n'étais pas très bien dans ma tête, et puis j'ai eu la vision de Jésus vivant, mais en fait, il n'est pas vivant. Parce qu'il a mangé avec eux, il ne pouvait plus douter. Et c'est ce qui se passe pour Gédéon. Tout d'un coup, il est vraiment convaincu que c'est Dieu qui lui a parlé. Dieu lui a dit, la paix est avec toi, ne crains rien, tu ne mourras pas. Chaque fois qu'il y a cette mise en présence de Dieu, eh bien, l'homme doit être rassuré, tu ne mourras pas. L'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il voit le Seigneur vivant, il tombe raide mort. Le Seigneur le relève, lui dit, j'étais mort, maintenant je suis vivant, au siècle des siècles. Donc nous voyons que Dieu envoie maintenant Gédéon, et c'est lui qui, avec la force qu'il a, et c'est quoi la force qu'il a? Ben, très peu de choses. Il était plutôt trouillard de nature. C'est pour ça qu'il met Dieu à l'épreuve. Il ne met pas gratuitement Dieu à l'épreuve, peut-être on peut dire ça à son actif. Ce n'est pas par plaisir qu'il met Dieu à l'épreuve. C'est parce que Dieu lui demande une chose, c'est d'aller combattre les Madianites qui sont 150 000. Et lui, il réussit à réunir 35 000 hommes. Et Dieu lui dit, demande à ceux qui veulent partir de partir. Alors, 22 000 partent. Dieu lui dit encore de faire un tri. Pour que personne ne soit jaloux, c'est Dieu qui choisit la façon de trier. C'est ceux qui vont aller boire au ruisseau, la façon dont ils boivent, tu vas encore les séparer, et il y en reste 300. 300 hommes contre 150 000. Et Dieu lui dit, t'as encore peur? Ça a fait une petite exploration vers le camp des Madianites. Et puis ils espionnent, ils entendent des Madianites qui parlent entre eux. Il y en a un qui a eu un songe là, pendant la nuit passée, et c'était un pain d'orge qui renverse toutes les tentes. Et l'autre lui explique, ça c'est Gédéon. Alors, l'ennemi lui-même donne la parole de Dieu à Gédéon. Vous voyez, c'est merveilleux. Dieu lui dit d'aller voir l'ennemi en cachette. Et c'est l'ennemi qui lui donne la vraie parole de Dieu. Alors après, il est sûr. Mais il a voulu obéir à Dieu. C'est à son honneur. Mais il avait tellement peur qu'il a mis à des épreuves, qu'il a demandé à Dieu de passer par des épreuves pour que cette peur s'en aille de lui. Donc ce n'est pas gratuit, cette mise à l'épreuve qu'il a faite pour Dieu. Et peut-être nous sommes aussi des gens peureux, des gens craintifs. Les disciples étaient des gens craintifs. Jésus, une fois après la tempête apaisée, leur a dit « Comment avez-vous si peur ? Mais où est votre foi ?» Je pense qu'ils doivent certainement se prendre la tête entre les mains bien souvent en ce qui me concerne. Car quand il s'agit de faire les choses que Dieu nous demande de faire, oh, tout d'un coup, il n'y a plus grand monde là. Et pourtant, Dieu ne va dans cette situation d'Israël qu'ils ont mérité parce qu'ils ont adoré des faux dieux. Mais Dieu ne se plaît pas à rester indifférent devant la souffrance, même si elle a été méritée. Ça, c'est encore une différence entre Dieu et nous. Quand quelqu'un souffre et qu'il a fait une faute, que c'est la conséquence d'une faute, on est plutôt indifférent. Mais Dieu s'implique dans l'histoire d'Israël, malgré les fautes, malgré le fait que leur détresse, elle vient de leur faute. Il y a des détresses qui ne viennent pas de la faute des hommes, mais il y en a qui viennent de la faute des hommes. Mais Dieu va et il cherche quelqu'un pour aller soulager cette souffrance. Jésus n'a pas donné d'explication de la souffrance. Est-ce qu'il faut bien être conscient de cela? Quand il voyait un handicapé de naissance, il ne cherchait pas d'explication. Il dit, ça c'est dans Jean 9, un handicapé de naissance qui était aveugle de naissance, il dit à ses disciples, ne cherchez pas les histoires de péché de ses parents ou de. Il dit à ses disciples, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ça c'est dans Jean 9. Et il donne la vue à l'aveugle. Il agit. Quand il voit la souffrance, il y va et il fait quelque chose. Et nous avons tous une mission. Si nous sommes croyants en Jésus, automatiquement, sa mission nous est confiée, nous est mise dans les mains. Mais il veut la faire avec nous. Ça, c'est marqué très clairement dans Jean 17. Comme le Père, comme tu m'as envoyé, c'est dans une prière de Jésus à son Père, comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. C'est clair. Maintenant que Jésus est plus visible sur terre, qui est visible pour les hommes, c'est nous. Et nous devons faire la mission pour laquelle Dieu nous envoie, Jésus nous envoie, qui est de soulager la souffrance et d'apporter le salut de Dieu à nos contemporains, qu'ils soient responsables ou non de leur malheur. Que nous ayons cette même compassion que Dieu a, qui ne juge pas Gédéon et qui ne juge pas son peuple idolâtre, mais qui vient à son aide. C'est vrai que la première chose que Dieu demande à Gédéon, c'est à l'intérieur de sa famille. Il dit, tu vas abattre les idoles de ton père, tu vas faire un beau feu avec ça, et tu vas construire un vrai autel à mon nom, avec un taureau que tu vas offrir en holocauste. Il a la trouille, Gédéon, parce que c'est dans son village qu'il va faire ça. C'est la première chose qu'il va faire. Alors vous voyez, Dieu aussi accepte d'être éprouvé. Il accepte qu'on le mette à l'épreuve. Mais après, si on a bien compris qu'il nous a choisis et qu'il veut nous utiliser pour faire ce qu'il a envie de faire dans ce monde qu'il aime toujours, alors il nous met à l'épreuve aussi. Est-ce que tu vas le faire ça? Je t'ai demandé de faire ça, tu vas le faire? Gédéon, il le fait. Alors, il trouve un truc, c'est de le faire la nuit. Voilà. Et le jour arrive, et puis on découvre le sacrilège. Il a détruit l'autel de Baal, il a détruit la, prends le truc féminin qui correspond à Baal, la Shéra, là, c'était des divinisations de la sexualité. Hein. Alors, qui donne la fécondité pour les récoltes, et là, non, la fécondité pour le bétail et la fertilité pour les récoltes. Alors, heureusement, voilà, il y a un secours inattendu, c'est Yoash, le père de Gédéon, il prend la défense de son fils. Il dit, quoi ? Vous voulez mettre à mort mon fils parce qu'il a détruit une idole ? C'est cette idole n'a qu'à se défendre si elle est vivante. Ah, réponse de sagesse. Du coup, on lui donne un surnom à Gédéon, Yerubbaal, que Baal se défende lui-même, voilà. Bon, donc il trouve, il est sauvé grâce à l'intervention de son père, Yoash, qui prend la défense de son fils, devant tous les habitants du village qui veulent le tuer. Et Dieu le met ensuite à l'épreuve, comme je vous ai dit, en lui enlevant la majeure partie de sa troupe, il n'en laisse que 300, et c'est avec 300 hommes que les 150 000 Madianites vont être vaincus. Vous pouvez lire cette histoire. Donc Dieu met Gédéon à l'épreuve pour qu'il ne puisse pas s'attribuer à lui-même la gloire. Mais néanmoins, Gédéon restera toujours dans l'histoire et même dans l'éternité. On se rappellera de ce que Gédéon a fait parce que Gédéon, il est rappelé par Ésaïe. Cette victoire de Gédéon est rappelée par Ésaïe chapitre 9 et Ésaïe chapitre 10. Ce sont deux chapitres qui parlent de la venue d'un fils de David, d'un Messie qui va sauver Israël. À l'époque, ce n'était plus les Madianites, c'était les Assyriens. Donc il y aura des victoires éclatantes par le Messie et il s'est comparé à la victoire que Gédéon a accomplie. Et avec le guide avec lequel nous étions en Israël, Bernard Geoffroy, j'ai appris aussi que cette histoire de Gédéon s'était répétée. En 1948, il y avait un officier et avec quelques soldats là sur le mont Gilboa, qui est l'endroit où il y avait Gédéon, au pied du mont Gilboa, il y a la source de Harod, qui est l'endroit où habitait Gédéon. Donc cet officier, en 1948, il observait, il y avait la guerre d'indépendance, surtout au sud, au Negev, où il y avait des Égyptiens qui avaient envahi le pays. Et puis il voit venir par un ruisseau depuis l'est du Jourdain, d'autres armées arabes, et si ces armées arabes arrivaient, elles faisaient la jonction avec l'armée égyptienne, et c'était la fin du pays d'Israël, de la nation d'Israël, dès le début. Et il téléphone, il appelle des secours, on n'a pas d'homme à te fournir, mais qu'est-ce que je fais? Alors on lui dit, t'as qu'à lire Gédéon. Il n'avait jamais lu. C'est un juif, il n'avait jamais lu l'histoire de Gédéon. Alors il a vu que Gédéon avait vaincu avec des torches, en faisant du bruit avec des trompettes. Donc il a réfléchi, dans la nuit, il a fait tourner il a dit aux femmes et aux enfants, il n'y a plus d'hommes dans la ville de Beth-Shean. Il a fait tourner des tracteurs dans la vallée du Jourdain et il a demandé aux femmes de taper sur les casseroles toute la nuit. Le lendemain, toute l'armée était partie, ils avaient cru que c'était des tanks qui arrivaient pendant la nuit. Et l'Épître aux Hébreux nous parle aussi de Gédéon comme d'un exemple de foi. Voilà un homme donc craintif, un homme qui a quand même obéi à la voix de Dieu et a été l'instrument d'une grande délivrance. Il était aussi idolâtre parce que après cette grande victoire, ça a assez mal fini. Il a utilisé les bijoux de cette armée madianite pour faire un éphod. C'est un habit qui est pour un prêtre avec beaucoup d'or. C'est devenu un lieu de pèlerinage chez lui. Il a pris beaucoup de femmes. Enfin voilà. Ça n'a pas bien fini son histoire. Il était quand même attaché aussi à son propre honneur. Il aimait bien un peu se faire mousser. Mais Dieu a utilisé cet homme. Dieu utilise des hommes, des femmes de chair et de sang avec leurs faiblesses, avec leurs défauts. Mais est-ce qu'on est d'accord de faire l'œuvre de Dieu? Jésus nous veut dans ce monde pour faire une œuvre, c'est la sienne, il veut la faire avec nous. Tout à l'heure, en lisant le récit le texte qui nous annonce le pardon de Dieu dans 2 Corinthiens. J'ai pas lu le verset suivant, 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous sommes à l'œuvre avec le Seigneur, dit Paul. Voilà comment vit un chrétien. Il est à l'œuvre avec le Seigneur. Et on peut faire beaucoup de choses quand on est bien conscient qu'il est avec nous. Même des choses qui nous paraissent impossibles. Mais si on a garanti, et si on convainc notre cœur que le Seigneur est avec nous, on peut avancer. Et on peut être en bénédiction à nos contemporains. Amen.